C'est Pierre-Étienne Drolet qui se joint à nous aujourd'hui pour cette chronique environnement. Il est biologiste, coordonnateur de projet également au COBALI. C'est un organisme qui veille à la protection des lacs et des cours d'eau d'ici, hein, du bassin versant de la rivière du Lièvre. Salut Pierre-Étienne.
Salut Patrick.
Aujourd'hui, je t'avoue, ton sujet me surprend, quoique je suis capable de comprendre un peu. On va parler de chemin, de ponceau.
Oui, des ponceaux, hein, parce qu'il y en a pas mal sur les lots à bois de notre région, pas mal de monde qui ont des terres. Puis, ben voilà, on va parler de comment faire traverser un cours d'eau à un chemin. Puis ça, c'est ce qu'on appelle les ponceaux.
OK.
Avec les ponceaux, ben c'est dans le fond, c'est le bon vieux tuyau là, qui est utilisé pour faire cela. Et j'en profite pour commencer, c'est rare que ça m'arrive, mais je vais faire une parenthèse linguistique dans ma chronique.
Allons-y, je t'ai intrigué. Okay. Ben, tu peux mettre ça dans toutes tes chroniques, moi j'ai pas de problème.
Ben, c'est parce que dans la région, on va souvent dire il y a une calvette ou une calvrette qui va traverser le creek, tu sais, pour traverser le creek.
Ben, tu vois, creek, évidemment, je connais le terme, mais là, pas le reste. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie.
Une calvette, ben, y a pas mal de monde qui dit ça. En fait, ça, c'est une francisation, ça vient de l'anglais culvert.
Ah!
OK, fait que c'est pas un mot français. Puis, évidemment, creek, ça vient de l'anglais creek,
oui,
qui veut dire ruisseau. Puis, en fait, si vous regardez dans un dictionnaire français, là, un creek, ça n'existe pas, c'est une creek en français.
Oui, là-dessus, on suit.
OK, puis ça veut dire une petite baie où on peut mettre un bateau à l'abri.
Alors, cute.
Fait que la prochaine fois que vous dites la calvette traverse le creek, ben vous saurez que en fait c'est deux mots anglais en réalité qui ont été francisés. Fait que je ferme la parenthèse linguistique.
OK. Bon, vous direz bien ce que vous avez envie de dire là, mais sachez que vous faites des images rendues là presque. OK, on va y aller dans le technique là. J'imagine qu'il y a des meilleurs endroits que d'autres là, pour traverser un ruisseau.
Oui, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte là, quand on a une terre et on veut faire traverser un chemin. Puis le premier critère, c'est d'éviter les pentes fortes.
Oui.
Fait que, tu sais, quand le ruisseau il passe dans un endroit vraiment encaissé, là, une petite vallée super étroite, ben faut éviter ces endroits-là parce que pour réduire l'érosion, dans le fond, du chemin, plus la pente est forte, plus quand il va y avoir des coups d'eau, il va y avoir de la terre qui va descendre, puis votre chemin va se faire laver, dans le
okay.
fond. Fait qu'on évite les pentes fortes. Puis aussi, c'est parce que ça évite d'avoir une espèce de méga remblai, tu sais, que le monde essaye de combler la vallée, dans le fond, en faisant un énorme remblai par-dessus le tuyau, tu sais, le ponceau.
Ouais.
Là, à ce moment-là, bien évidemment, ça va faire trop de poids, puis ça va écraser notre tuyau. Donc, fait que c'est pas une bonne idée, dans le fond, d'essayer de remblayer dans une vallée trop profonde.
En gros, vous travaillez trop fort pour rien, puis ça donnera pas de beaux grands succès. Donc, logiquement, on va chercher tout à fait l'inverse, c'est-à-dire des terrains qui sont un peu plus plats,
oui,
ou le plus possible.
Mais encore là, il faut faire attention, parce que qui dit terrain plat sur le bord d'un ruisseau, ça se pourrait que tu sois dans un milieu humide ou
ah oui.
Dans bon, une
excellent
zone
point.
Qui va être inondée au printemps. Fait qu'il faut essayer de trouver un terrain qui est assez plat, mais quand même qui reste assez sec. Puis là, on essaie de traverser notre cours d'eau de bien perpendiculairement là, pour empiéter le moins possible sur son lit.
OK. Oui, c'est logique. J'imagine que quand c'est pas un nouveau terrain, on le connaît, notre terrain, puis on sait comment ça va réagir au printemps, là, mais sinon, il faut quand même se poser la question. J'imagine que c'est pas une bonne idée de traverser... Ben écoute, c'est logique aussi, là. On fera pas ça où le cours d'eau est le plus large. Parce que là, on va travailler fort en tabouère.
Exact. Oui, évidemment, on cherche un endroit qui est assez étroit. Puis aussi, où est-ce que le cours d'eau est assez droit. Parce que si tu fais ton ponceau à une place que c'est bien méandreux, c'est que le cours d'eau, avec le temps, il va se déplacer. Fait que là, ça risque que le ponceau ne sera plus à bonne place. Le cours d'eau va avoir changé de place entre-temps. Puis aussi, ben, on essaie d'éviter les sites où on sait qu'il y a de la reproduction des poissons, hein, les frayères.
Ouais.
Fait qu'on essaie de mettre les ponceaux après la frayère pour éviter que s'il y a du sable ou que notre ponceau se fait arracher, mais ça va pas recouvrir les œufs puis l'endroit où les poissons pondent leurs œufs,
ouais,
sur notre ruisseau. Exemple, les truites. Puis aussi, ben, il faut s'aider soi-même. Hein, tu sais, il y a bien du monde qui font deux ponceaux pour deux chemins qui, dans le fond, sont juste un à côté de l'autre. Là, fait qu'on peut faire un pont pour les deux chemins, des fois, ça aide aussi. Puis à l'inverse, ben, quand il y a un ruisseau qui se jette dans un autre, ben c'est mieux de faire le ponceau après que les deux se soient joints. Fait que là, tu fais un ponceau au lieu de faire deux ponceaux, comme on voit vraiment souvent. Là, les gens, ils traversent deux ruisseaux au lieu d'un, dans le fond. Fait que ça, c'est des petits trucs qu'on peut avoir quand on pense à nos affaires pour faire nos chemins.
Là, on peut comprendre que vous avez fait le deuxième parce que vous avez réalisé que le premier, c'était pas à bonne place, peut-être. Ça, c'est correct, là. Je vous laisse aller avec ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas moi qui va donner les meilleurs conseils, c'est clairement toi, Pierre-Étienne. OK, maintenant, savoir traverser, savoir où le faire, c'est une chose. Pour ce qui est du tuyau, j'imagine qu'il y a, il doit avoir des réglementations ou en tout cas des logiques bien établies.
Oui, premièrement, c'est le vieux principe là, qu'il faut adapter le ponceau au cours d'eau et non faire l'inverse, que beaucoup de gens essaient de faire.
En parlant de travailler trop fort, vas travailler trop fort.
Exact. Puis, contrairement à la croyance populaire, on ne peut pas faire un ponceau de n'importe quand au Québec. Imaginez-vous là, qu'il y a un règlement qui s'appelle le règlement sur les habitats fauniques. Qui dit pas mal d'affaires, là, mais
oui, en gros,
faut respecter quelques principes de base. Par exemple, il faut que le ponceau soit bien dimensionné. Fait que ça veut dire qu'autrement dit, il faut que tu mettes un ponceau qui est assez gros pour ton cours d'eau.
OK.
Fait que faut jamais, dans le fond, que ton ponceau rétrécisse le cours d'eau de plus que 20%. Puis ça, c'est en période de crue, évidemment. Fait que les gens ils ont tendance là, à mettre des plus petits ponceaux pour gagner de l'argent, trouver des sous. Mais ce qui arrive, c'est qu'évidemment, en période de crue, le ponceau il arrache. Fait que t'es pas plus avancé. T'sais.
Ouais, ouais.
Puis ensuite, sinon, ton ponceau, il faut qu'il soit bien aligné avec le cours d'eau, bien sûr. Il faut qu'il soit un petit peu enfoncé dans le lit du cours d'eau aussi. Parce que sinon, à la longue, le cours d'eau il va passer en dessous de ton ponceau, ce qu'on veut éviter. Et puis, il faut qu'il respecte la pente aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça crée une chute à la sortie de ton tuyau, là où il n'y en avait pas. Parce qu'à ce moment-là, les poissons pourront pas remonter ton ponceau. Fait que tu viens comme de casser en deux un écosystème qui... Tu viens de bloquer les poissons. En fin
pas pire.
Donc, il faut que tu évites les chutes à la sortie de ton ponceau.
OK. Ça fait beaucoup de choses à réfléchir, mais en même temps, j'ai l'impression que tout ça était logique. Sauf que j'ai l'impression qu'une fois de temps en temps, on fait pas la bonne affaire, peut-être tout à fait naïvement, mais d'où la raison pour laquelle allez vous informer. Puis bon, si jamais vous êtes arrivé en plein milieu de cette chronique puis que vous le savez là, que bientôt il va falloir que vous travailliez là-dessus, vous pouvez écouter la chronique au grand complet un peu plus tard. Ce sera sur le cflo.ca, vous allez trouver ça assez simplement. Puis même si vous posez la question rendue au printemps, vous allez pouvoir trouver ça également. Vous taperez Cobali dans le moteur de recherche. D'après moi, vous allez tomber assez rapidement dessus. Aujourd'hui, on était avec Pierre-Étienne Drolet, aux surprises du Cobali. Il est biologiste, chargé de projet également, coordonnateur de projet. Merci Pierre-Étienne.
Salut Patrick, à la prochaine.
Yeah!